Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Il n'y a que ses enfants qui ne le trouvent pas drôle. Lui nous fait hurler de rire depuis plus de 10 ans avec une mauvaise foi indéboulonnable. Et oui, je reçois un beau gosse à particules et barbe rousse, père de 4 enfants pour qui la famille est une source d'inspiration inépuisable, mieux qu'un puits de pétrole pour l'humoriste qu'il est. C'est Olivier de Benoît, en tournée en ce moment avec son nouveau one-man show irrésistible, baptisé Le Petit Dernier. Par exemple, mardi 15 septembre, Olivier de Benoît est à Aix-les-Bains au théâtre du Casino Grand Cercle. Je redonnerai comme ça plein de dates parce que la tournée va en fait se poursuivre jusqu'en février 2021. Et la chance qu'on a cet après-midi, c'est que c'est pour nous qu'il va faire le show.
Europe 1.
Bonjour Olivier.
Merci, si, la chance est pour moi d'abord. Là, c'est depuis tant que j'attendais ce moment. Non mais c'est vrai, pour moi c'est une nouvelle naissance de faire cette émission.
J'adore quand ça commence comme ça.
Ça promet une nouvelle carrière peut-être.
Voilà, voilà. Olivier de Benoît, quand on est humoriste en France, Olivier de Benoît, malgré les réseaux sociaux, on est bien loti.
Oui, alors c'est vrai qu'on l'est moins. On l'est moins qu'à une période, la période bénie, où alors le deuxième degré était roi. C'est-à-dire qu'il y a une période pendant laquelle il n'y a jamais eu aucune ambiguïté. Et c'est vrai que depuis quelques années, on remet en cause le deuxième degré. Et n'importe quelle phrase, au premier degré, peut être méchante, horrible, et alors qu'au deuxième degré, elle est drôle. Et donc, voilà, je crois que les humoristes, leur travail, c'est de lutter pour que le deuxième degré demeure.
Parce que votre humour à vous, il n'est pas politique, il est sociétal. En théorie, cet humour-là, il génère moins de polémiques sur le net. Et pourtant, vous êtes en train de nous dire que vous n'avez pas réellement les coudées franches. Parce que ce deuxième degré...
Pour être franc, je ne suis pas polémiste. C'est-à-dire qu'effectivement, comme je ne suis pas sur des sujets de société, je suis moins courageux que les autres. Mais c'est vrai que... aujourd'hui, il faut faire gaffe, parce qu'avec les réseaux sociaux, vous prenez une phrase d'un spectacle, quand vous le sortez du contexte, et bien quelque chose qui, du deuxième degré, est drôle, peut devenir méchante. Quand je dis, je suis écolo, depuis que j'ai mis mes enfants dans les chambres séparées, je trie mes déchets. Et bien ça, si vous lisez cette phrase, elle peut apparaître extrêmement méchante, alors qu'elle est juste drôle. Vous voyez ce que je
veux dire ? Et que tout ce qui est dit avant et tout ce qui est dit après, effectivement, justifie le rire.
Voilà, exactement.
Bon, alors, votre terrain de jeu favori, puisque justement, vous évoquez vos enfants, Olivier de Benoît, c'est donc la famille. Et vous êtes un expert dans ce domaine, puisque vous êtes issu d'une fratrie de 7 garçons. C'est pas anodin, ça. Et chaque fois que vous avez eu un enfant, pour l'instant... vous en avez 4, et bien vous créez un nouveau one-man show. Seulement contre toute attente, le nouveau spectacle, baptisé Le Petit Dernier, est, on peut dire, un véritable hymne à la contraception. Où est l'erreur ?
Non mais c'est vrai que je me suis rendu compte, en fait, que 4 enfants, c'était beaucoup, c'était trop. D'ailleurs, si quelqu'un t'intéressait, depuis le confinement, depuis que je me les tape en frontal depuis 6 mois, j'en vends un. Je ne dirais pas lequel, lui n'est pas au courant. N'est pas au courant. Déjà, il y a eu un choix de fait, un choix fort. Non, mais c'est vrai que je trouve que c'est délicieux de détester ses enfants dans un spectacle de la façon dont je le fais. Évidemment, c'est que pour se marrer. J'ai trouvé ça marrant de sortir du politiquement correct où les parents, voilà. Donc moi, je déteste mes enfants et ça marche très bien.
Bon, en fait, il n'y a pas de phrase plus dangereuse que de dire à une femme qu'on aime « Et si on faisait un bébé ?» Parce qu'on en prend pour perpète après. On devrait dire « Et si on fabriquait un futur adulte ?»
Non, mais c'est vrai que ce qui serait génial, c'est que l'enfant arrive à 18 ans. Non mais c'est vrai, il arrive à la maison à 18
prêt
ans
à prendre son
avec
envol.
Un métier et pour pouvoir aider sa famille et pouvoir aider ses parents. Je trouve que les enfants sont utiles à partir du moment où ils aident leurs parents vieillissants. Donc j'attends de vieillir pour qu'ils m'aident.
Alors, avant, l'éducation des enfants était gérée par les mères, mais la société actuelle veut des pères hyper concernés, des pères ultra présents, efficaces, irréprochables dans tous les domaines. Vous, Olivier de Benoît, vous vous en sortez comment à la maison, dans la vie ?
Je m'occupe énormément de mes enfants, je veux pas que ma femme s'en occupe seule parce que mes enfants méritent mieux. C'est vrai que... Non, c'est ce que je dis dans le spectacle, mais... Non mais honnêtement, je me trouve pas mauvais. J'ai découvert ça. Je m'occupe beaucoup plus de mes enfants que mon père s'occupait de nous. Et je me suis trouvé, Et d'ailleurs, dans le spectacle que je propose depuis dernier, je crée une école de parents pour que les pères qui sont pas aussi investis que moi deviennent des bons pères.
Voilà, School of Lexomil.
Exactement. Parrainé par un aristo qui a eu aussi 4 enfants, Xavier Dupont de Ligonnès.
Ah, mon Dieu, quelle horreur. Bon, votre expérience la plus redoutable en tant que père de 4 enfants, c'est laquelle ?
L'expérience la plus redoutable, je crois, non, c'est les nuits. C'est d'entendre ma femme se lever quand l'enfant pleure. Je trouve que c'est le moment le plus redoutable. C'est le moment où alors on aura du mal à se rendormir. Non, c'est vrai aussi que aujourd'hui, on se rend compte d'une chose, c'est que avant, on élevait les enfants, on se posait pas la question comment on les élève. Ouais. Ça, c'était comme ça. Et aujourd'hui, il y a des psys. Aujourd'hui, un truc machin. Et on essaie de faire un maximum d'activités aux enfants. On s'en occupe trop. Et effectivement, parfois, il y a même des enfants qui font des burn-out à 12 ans. Et ça, c'est
tant
ça,
ils ont d'activités.
Tant il y a un trop plein. Les gens ont moins d'enfants, ils s'en occupent trop. Moi, je pense qu'il faut s'occuper moins des enfants. Et moi, j'en fais le moins possible. Et j'espère que ça marchera. Voilà.
Formidable. Alors, la plus jeune, elle a 2 ans. Ouais. Mais bon, je voudrais savoir si les aînés ont de l'humour. Ils savent qu'ils sont les joyaux de votre inspiration et que leur dérapage dans la vie vraie en font des stars sur scène.
Alors, oui. Ils trouvent ça drôle. Et parfois, je fais même des vidéos sur Internet avec eux, sur Instagram, etc. Donc, ça les a fait marrer au début. Et maintenant, ils veulent.
Pourquoi au début ?
Parce que maintenant, ils veulent être rémunérés.
D'accord.
Non, c'est vrai que je pense que ma femme a de l'humour, moi aussi, et je pense que du coup mes mots ont de l'humour. Voilà.
Alors, la famille modèle, elle n'a jamais fait rire personne. Est-ce que vous soupçonnez certains de vos enfants, puisqu'ils sont 4, de faire des bêtises juste pour vous inspirer ?
Non, j'ai pas d'enfants qui font des bêtises. D'ailleurs, je me suis rendu compte parce qu'ils m'ont demandé récemment quelle était la plus grosse bêtise que j'avais fait moi, parce que pour les faire marrer, je me suis rendu compte qu'en fait, moi, je n'ai pas fait de grosses bêtises. Voilà. Donc eux non plus. C'est vrai, non, mais ils ne créent pas du quotidien pour que je m'en inspire.
On fait une pause très très courte et on retrouve tout de suite cet après-midi mon invité, Olivier de Benoît.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
Alors, cher Olivier, votre nom complet, il a un panache fou. Olivier Marie Emmanuel de Benoît de Jean Tissard. J'ai pas dit de Moulinsard. Hein. Bon, mais Jean Tissard, je voudrais savoir, c'est un fief, c'est une bourgade, c'est un château.
C'est un hameau en Belgique, en Wallonie.
C'est un hameau en Wallonie.
Ouais, attends, qui nous a été offert par Marie-Thérèse d'Autriche pour remerciement de services rendus.
Alors effectivement, l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche a fait baron du Saint-Empire, l'un de vos lointains aïeux, et votre famille depuis compte pas moins de 7 généraux. Mais j'ignorais qu'en même temps, elle avait donné donc un fief en Wallonie, qui restait dans la famille ou pas ?
Non, pas du tout. Pas du tout, on essaie de le reconquérir. On a acheté une petite armée.
Et voilà.
On va reprendre Jean Tissard dans les prochaines semaines. Profitons du boom du coronavirus, nous allons repartir. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, Marie-Thérèse d'Autriche, qui est donc aussi la mère de Sissi.
Mais oui.
Et comme mon aïeul aurait une relation en plus extra-conjugale avec Marie-Thérèse, il n'est pas
impossible. Sissi, votre lointaine cousine.
Il n'est pas impossible que Romy Schneider. soit ma cousine. Non, mais c'est vrai que voilà, donc c'est marrant parce que c'est vrai que c'est. Non, mais on est très attaché à l'histoire de notre famille et je suis ravi de ses racines.
Alors, vous êtes le premier saltimbanque, mais pas le premier héros justement de cette famille, puisque votre oncle Gérard Daboville, le frère de votre maman Isabelle Daboville, est mondialement connu pour avoir traversé à la rame et en solitaire l'océan Atlantique dans le sens ouest-est au cours de l'été 1980 et toujours à la rame et en solitaire. Carrément, là, c'est encore pire, si je puis dire, l'océan Pacifique, du Japon jusqu'aux côtes américaines en 91. En 91, vous aviez 17 ans, vous l'avez suivi de quelle façon cet exploit surhumain ?
J'ai toujours été très très admiratif de cet oncle, parce que l'exploit de 80, quand il est dans cette coque en bois, c'est vrai que ça n'avait jamais...
Il était minuscule, j'ai regardé à nouveau sur YouTube. En plus, il s'entraînait sur la scène pour ramer. Et je me demande si, dans votre famille d'ailleurs, on le prenait pour un héros potentiel ou on le prenait tout de même pour un excentrique.
Alors, c'est toujours la même chose, c'est qu'au début, on se dit il est barré, et puis au fur et à mesure qu'il arrive, on trouve l'exploit exceptionnel. Moi, mais j'ai toujours eu beaucoup d'admiration, parce que c'est vrai que c'est pile ou face, c'est-à-dire qu'il aurait eu 25 fois l'occasion de mourir, noyé, etc. Et voilà, et le fait qu'il ait fait le Pacifique derrière, qui était 3 ou 4 fois plus long, 5 fois plus long...
C'est... À 46 ans
46 ans, non. Voilà, j'ai beaucoup d'admiration pour lui, et comme il écoute cette émission, je lui redis.
En tout cas, chez les Daboville, on est incroyablement sportif, puisque en 80, donc l'année où pour la première fois il a traversé un océan à la rame, cette même année, votre oncle traverse fait le Paris-Dakar à moto avec ses 4 frères. Donc je voudrais savoir si vous avez hérité de ce gène-là, du héros sportif ou pas du tout, Olivier Benoît ?
Pas du tout.
Pas du tout.
Non, c'est horrible parce que en me posant la question, je me rends compte à quel point ma vie est terne. Non mais vous venez de mettre le doigt sur un vrai problème.
Vous êtes un sportif sur canapé.
Oui, exactement. Oui, c'est ce que dit ma femme. Mais c'est vrai que c'était une époque où ils étaient beaucoup plus roots que nous. Moi, j'ai pas fait tout ça. Non, je vais à la piscine. c'est le mec qui
perd accompagner les enfants.
Oui, je suis à la piscine. Non, mais c'est aussi une autre aventure. C'est une autre aventure, les quatre. Non, mais c'est vrai que je suis admiratif. Les Paris-Dakar, ils le faisaient en plus. Il y en a une moto, une petite voiture, un truc machin. Moi, voilà, ma dernière aventure, ça a été de faire Lyon-Paris en voiture.
Bon, la devise de la famille, elle invite tout de même à voir grand, puisque c'est mon champ et le monde.
Oui.
C'est magnifique comme devise.
Oui, j'aime beaucoup.
Alors, je voudrais savoir comment on vous a élevé chez les deux Benoît de Gentissart.
Mais pas mal. Non, mais pas mal. Mais c'est vrai que je suis issu d'une famille nombreuse, donc on gère que les urgences, déjà, une famille nombreuse. Donc ça, c'est la première règle. Non, il y a des trucs qui sont propres aux familles nombreuses. Déjà, quand on est dans une famille nombreuse, à table, on se sert beaucoup. Parce que dans une famille nombreuse, le plat repasse jamais.
D'accord.
Donc ça, ce sont des éléments de famille nombreuse. Non, mais c'est vrai que on a été élevé. L'avantage d'avoir 6 frères, c'est qu'on a été élevé en groupe.
Oui, il faut dire quand même, 7 garçons, c'est pas anodin.
Non.
Pas une sœur. Donc j'imagine que l'ambiance était assez militaire.
Oui, non, pas une sœur. Et puis en plus, j'étais dans une école non mixte. Je faisais du scoutisme.
Chez les jésuites.
Voilà, je faisais du scoutisme. Donc c'est vrai que je l'ai souvent dit dans mes spectacles. On n'avait aucune représentation féminine.
Incroyable.
La seule. Oui, non, exactement. Il n'y avait que ma mère. Il n'y avait que ma mère qui s'est rasé la barbe à 12 ans. Non, c'est vrai que c'est drôle. Non, mais c'est vrai quand tu penses, on s'est bien marré quand même.
Bon, vous venez de nous dire que vous avez été élevé chez les jésuites, c'était à Saint-Joseph. A priori, ça donne pas les repères pour devenir saltimbanque, mais effectivement, l'humour, ça se cultive pas. La faculté de faire rire, on l'a ou en soi, ou on l'a jamais.
Oui.
Alors, le déclic, il arrive comment ? Vous vous rendez compte que vous êtes drôle quand vous êtes parmi les jésuites, quand vous faites rire dans la cour de récré.
Mon père m'a trouvé drôle quand il a eu mon bulletin scolaire de seconde.
D'accord.
il m'a trouvé drôle, mais volontairement. Non, mais j'avais toujours ce sens-là. C'est-à-dire que on peut pas expliquer pourquoi on fait marrer les autres. Mais vous avez une espèce d'instinct de là, c'est drôle. Donc je l'ai toujours eu et j'ai toujours adoré ça. C'est-à-dire cette sensation que quand vous recevez un rire, c'est un cadeau que vous donne quelqu'un parce que le rire, c'est de la pudeur, c'est au même titre que les pleurs. Donc en fait, quelqu'un qui rit, il vous donne quelque chose et il ne le donne pas forcément facilement. Et donc, non, mais j'ai toujours su que je faisais marrer. Mais c'est vrai que de passage, on m'avait dit il y a 18 ans que je serais humoriste et que vous m'interrogeriez, je serais dans le coma.
Bon, revenons à l'enfance. Il y a un événement, Olivier de Benoît, dans votre enfance qui peut-être a détourné le cours des choses. À l'âge de 10 ans, vous avez été renversé par une voiture et vous êtes resté totalement immobilisé pendant un an.
Oui.
Un an, c'est une éternité pour un enfant.
Oui.
Donc, le temps qui vient après, le temps qui vient ensuite, c'est un bonus phénoménal qui peut-être rend hyperactif.
Alors, oui. Non, mais c'est vrai. Alors, je suis pas sûr. Alors, je sais pas si je peux le dire, mais effectivement, quand j'avais 10 ans...
Dites-nous tout.
Non, mais quand j'avais 10 ans, parce que ça vous concerne. Quand j'ai eu cet accident de voiture où on m'a renversé, je suis allé à l'hôpital et effectivement, je suis resté très longtemps immobilisé. Et quand on me demandait quel cadeau je voulais, je répondais des Schtroumpfs et les disques de Karen Cheryl. Donc vous. Et c'est vrai qu'en écoutant à nouveau Chéri, je vous l'ai raconté tout à l'heure, je me suis remis à marcher.
J'espère.
Je me suis remis à marcher. La lumière blanche a disparu. Le visage de Karen Cheryl est apparu. Et voilà.
Voilà,
et
je n'en espérais pas tant en faisant de la radio, mais alors vraiment. Là, moi qui marche sur l'eau.
On n'était pas à Lourdes, mais presque.
Mais presque, exactement. Vous êtes bien sur Europe 1. Vous restez sur Europe 1.
On n'est pas à KTO, on est sur Europe 1. Non, mais c'est vrai que non. Je pense que peut-être, non, pour être franche, ça ne m'a pas. J'ai pas la sensation que ce moment ait changé le cours des choses, même si voilà, peut-être qu'un psy dirait, tiens, il y a eu cet événement, quelles ont été les conséquences, mais j'ai appris ma vie normale, c'est pas un moment où tout d'un coup je peux déjà faire du théâtre, etc. Mais en tout cas, le seul souvenir que j'en ai, c'est vous.
Mon Dieu.
Et bon. Vous n'avez pas changé, je vous vois là, c'est la même.
Voilà, formidable. Heureusement, les auditeurs peuvent pas vérifier, c'est de la radio. Donc, on s'interrompt un bref instant et on se retrouve tout de suite avec Olivier de Benoît.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h sur Europe 1.
Olivier de Benoît, vous vous êtes essayé à plusieurs vies avant de devenir humoriste. Vous avez fait des études de droit, vous êtes devenu juriste, mais plus surprenant, vous êtes devenu magicien. Et c'est en faisant des tours de magie que vous êtes d'abord monté sur scène. Comment est née cette fascination pour la magie et où et avec qui avez-vous appris à travailler des tours ?
En fait, à 18 ans, il y a un garçon qui m'a appris quelques tours de magie l'été. Et quand je suis arrivé à Paris, j'avais beaucoup de transport pour aller à la fac. Du coup, j'ai commencé à m'entraîner. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait gagner sa vie en tant que magicien. Et donc, j'ai commencé à travailler, vous savez, dans les soirées privées, etc.
Ouais.
Et en fait, je faisais déjà du one-man show, en fait, parce que ce qui m'amusait, c'était de planter les tours.
Ah, vous plantiez les tours,
ouais,
d'accord.
Mon grand art, c'était d'arriver à faire croire aux gens que le magicien avait planté son tour. Et les gens hurlaient de rire en se disant, c'est pas possible, c'est horrible pour lui, il a planté son tour, il se marrait. Et donc,
après, vous le faisiez pour de bon le tour, même
non,
pas.
Non, même pas.
Non,
non, non, j'arrivais. Mon challenge, c'était de faire que des tours plantés, d'être payé pour ça. Et c'est vrai que, voilà, donc on m'a dit à un moment donné que ça s'appelait One Man Show. Et donc, c'est comme ça que j'ai changé de carrière. Et donc, voilà. Mais c'est vrai que
Mais c'était un entraînement formidable pour devenir humoriste.
Oui, oui, parce que j'ai dû le faire. J'ai dû faire de la magie. J'ai fait 500 dates. Et donc, à chaque fois, devant une, deux personnes. Et à chaque fois, ça vous apprend à maintenir l'attention des gens. Et c'est comme ça que, voilà, j'ai appris mon métier en faisant du One Man Show. C'est un très bon exercice.
Donc, vous avez fait des études de droit, vous étiez juriste dans la journée, vous faisiez du one-man show en tant que magicien le soir.
Et alors c'est juste, je voudrais parce que c'est un truc que j'ai peu dit, mais c'est que c'est en tant que juriste que j'ai rencontré ma femme.
C'est vrai ?
Oui, c'est-à-dire qu'elle c'était mon maître de stage. Donc, c'est-à-dire que comme j'étais magicien et je faisais aussi un peu de théâtre, etc., j'avais deux CV.
Ouais.
J'avais un CV de comédien, où en divers je mettais juriste, et puis un CV de juriste très sérieux, etc. Et j'ai envoyé au cabinet de là où travaillait ma femme le mauvais CV. Et donc elle a reçu le CV où c'était dans divers juriste, et j'avais mis danse traditionnelle polonaise. Et donc ça la faisait tellement marrer.
Elle a absolument tenu à vous rencontrer.
Voilà, c'est dit ce type est fou, je veux le voir. Et donc voilà.
C'est très joli.
Oui, c'est très joli, voilà.
Alors, Caroline Vigneault a été avocate et est restée 10 ans au barreau avant de devenir humoriste. Vous, Olivier de Benoît, combien de temps avez-vous été juriste ?
Alors, moi, j'ai été juriste, j'ai fait que deux stages. J'ai fait que deux stages.
Non, mais
j'étais
le diplôme pour rien.
Le diplôme pour rien. Mais en fait, ce qui a été effrayant quand vous avez 25-26 ans, c'est de choisir entre deux carrières. C'est-à-dire, soit toute ma vie je suis artiste, saltimbanque, je finirai sous un pont, soit je deviens juriste, c'est très classique, c'est très rassurant. Et c'est vrai que vous avez du mal à choisir. Et moi, je me suis dit, si je pars dans la voie de juriste, jamais j'aurai le courage d'arrêter. Je trouve que c'est là où Caroline Vigneault a été très courageuse, c'est d'arrêter dans un certain confort. Moi, j'ai commencé tout de suite.
Comme ça, vous n'aviez pas à freiner.
Voilà, j'avais pas besoin, voilà, parce que je pense que j'aurais pas été assez courageux.
Mais il y a une nuit que vous avez passée sans dormir, allez, je fais le grand saut sans filet.
J'avais été dans un cabaret qui s'appelle Démon de minuit à Montparnasse, c'est un petit truc. Ils avaient organisé une audition. Il y avait plusieurs personnes et celui qui gagnait 15 jours là-bas. Et j'avais dit, si je gagne, je deviens humoriste et je deviens magicien, etc.
Mais je crois que vous n'avez pas gagné.
Non,
alors...
je n'ai pas gagné, je suis arrivé dernier. Et d'ailleurs, c'est horrible parce qu'à chaque fois, ils donnaient un compliment, ils essayaient d'encourager les uns et les autres. Et moi, j'avais été tellement mauvais qu'ils m'avaient dit bien habillé. Vous avez trouvé que j'avais été bien habillé.
Et quand vous êtes arrivé dernier, vous vous êtes dit, il faut absolument que je continue pour persévérer, c'est
donc,
ça ?
Je me suis dit qu'en fait, c'était complètement con de faire dépendre d'une prestation une vie entière. Et donc, progressivement, je me suis rendu compte, voilà, j'ai fait beaucoup des pubs, des casting pubs, j'ai décroché des pubs. Après, j'ai commencé à jouer mon premier spectacle, modèle déposé de Poulvord, etc.
Ah oui, on va l'évoquer. Et ceux qui ont gagné, par exemple, ce soir-là, à cette audition-là,
ils sont devenus juristes.
C'est ce que j'allais vous demander.
On devrait écrire ensemble, non, Isabelle ?
Songer à ça.
Ah oui, parce que c'est tellement beau. C'est la meilleure émission du monde.
Allez, justement, on se retrouve tout de suite dans une poignée de secondes avec Olivier de Benoît.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
Dans les 6 mois qui viennent, Olivier de Benoît passera forcément chez vous ou près de chez vous. Alors, ne le ratez pas. Son one-man show a pour titre Le Petit Dernier. Et je vous donne comme ça quelques dates au hasard. Le 22 octobre, il est à l'Arsenal de Metz. Le 23, au Forum de Liège. Et le 6 novembre, à la Maison du Peuple, à Belfort. Et la tournée... va comme ça jusqu'en février 2021.
Enfin, c'est jusqu'en juin même et juin 2021, et ça pourrait aussi se prolonger jusqu'en décembre 2021, puisqu'il y a énormément
Le livre des records.
Non, mais il y a énormément de demandes. Non, mais c'est vrai, je suis ravi. Non, mais donc c'est une grosse tournée.
Olivier de Benoît, est-ce que les humoristes sont des séducteurs contrariés ?
Peut-être. peut-être que quelqu'un qui fait marrer, c'est quelqu'un qui n'est pas sûr de lui et qui tente par l'humour. Ouais, je ne suis pas sûr que... Oui, je pense que quelqu'un qui est très séduisant a moins besoin d'être drôle. Non, mais sérieux, je ne suis pas sûr que Brad Pitt soit très drôle. Que je sais pas, que vous avez peut-être des infos. Non,
elle me va très bien, votre réponse. Non, je n'ai pas encore expérimenté. Mais
non, mais c'est parce qu'il me parle souvent
voilà.
De vous.
Bon, vous êtes issu d'une famille noble. Chez les aristos, on éduque les enfants en gommant les émotions, n'est-ce pas ? Never explain, never complain. Bon, jamais d'explication, jamais de plainte. En revanche, bah, sur scène, les émotions, on les amplifie. Alors, est-ce que vous êtes affranchi facilement de votre éducation et des codes de votre milieu ?
C'est vrai que c'est assez compliqué quand on est voilà, issu d'une famille aristo. C'est vrai que dans l'éducation, voilà, les émotions sont, comme c'est, le terme est exact, sont gommées. Et voilà, on ne pleure pas, on ne s'épanche pas, etc., etc. Et c'est vrai que ce métier d'humoriste et d'acteur, plus généralement, c'est un métier où alors on est des éponges et on doit tout donner. Et c'est vrai que c'est plus compliqué pour nous, ou alors on nous a bridés de faire en sorte que ça sorte quelque part. Mais du coup, c'est plus intérieur et parfois, voilà, c'est plus subtil.
Voilà. Alors, personne ne vous a formé au métier d'humoriste et vous n'avez surtout jamais pris de cours de théâtre. Votre seul entraînement, Olivier de Benoist, se résume à un training au studio Pygmalion. Studio Pygmalion qui avait coaché d'ailleurs Anne Parillaud pour son rôle dans Nikita et Marion Cotillard pour La Môme. Alors, training réussi puisqu'elle a décroché un Oscar. L'Oscar vous attend bientôt. Mais
drôle.
Vous, Olivier de Benoist, que vous a-t-on fait faire au studio Pygmalion ?
Ah ben, ça a été horrible. Au début, c'était formidable, mais c'était au début horrible parce que justement, ça ne travaille que sur les émotions. Donc, vous devez pleurer à un moment donné. Moi, j'avais jamais pleuré de ma vie, en tout cas jusqu'à l'âge de 8 ans. On vous dit, t'es un garçon, tu pleures pas. Et donc, c'est vrai que tout d'un coup, pleurer, c'est sortir une émotion. Donc, au départ, il a fallu mettre la machine en route et c'est pas évident. Non, c'est pas évident.
Bon, en tout cas, en sortant du studio au Pygmalion, vous n'êtes pas immédiatement monté sur scène pour faire rire. Vous avez d'abord joué une pièce de théâtre à un seul personnage, écrite par Benoît Poulvorde.
Jean Lambert et Bruno Bellevaux, parce qu'ils étaient trois.
D'accord. Et cette pièce, elle ne vous a pas été envoyée, puisque en fait, vous étiez inconnu. Alors, comment a démarré l'aventure ? Vous êtes tombé de quelle façon sur cette pièce ?
C'est aussi bête que ça. C'est-à-dire, je suis allé dans une librairie théâtrale et je tombe sur Modèle déposé. La première phrase, c'était Poulvorde qui va aux toilettes dans un bar et qui revient et qui dit « C'est bizarre cette manie qu'ont les dames pipines mouiller leurs pièces. » Et donc, je ne connaissais pas trop Poulvorde et je trouvais que c'était bizarre. C'était
ça vous a accroché.
Oui, et puis c'est l'histoire d'un scientifique qui pense avoir raison contre le monde entier. Je trouvais que, et d'ailleurs, c'est souvent l'humour belge que j'adore, c'est-à-dire que ce sont des gens qui se battent contre le monde entier, ils sont persuadés qu'ils ont raison.
Voilà.
Et ce sont eux les cons et,
voilà.
et ça me correspondait.
Bon, alors, vous avez joué donc Modèle déposé, co-écrit par Benoît Poulvorde. Il est venu vous voir, Poulvorde ?
Non, il n'est jamais venu me voir sur scène. Par contre, je l'ai rencontré à deux reprises et on est parfois déçus par les gens qu'on rencontre quand on les voit en vrai. Et alors lui, c'était tout le contraire.
Ouais.
Un type délicieux,
ouais.
Vraiment délicieux.
Ouais.
Et mon rêve, ce serait de tourner un film avec lui. Et comme il nous écoute aussi, voilà.
Ça y est, le message est passé. Alors, Modèle déposé, ça a été un succès d'estime ? Pas vraiment ? Comment ça s'est passé ?
Ça a été
passé.
Le démarrage, jouer sur
le
une pénis.
Le démarrage.
Démarrage. Et après, j'ai très vite compris que si je voulais faire du one-man show, il fallait écrire mes propres textes.
Et c'est ce que vous avez fait, n'est-ce pas ? Alors, la deuxième pièce que vous avez jouée, effectivement, c'est vous qui l'avez signée. Elle avait pour titre « Né sous X ». Et décidément, Olivier de Benoist, les sujets qui tournent autour de la procréation et de la descendance donc de la famille vous obsèdent ?
Oui, mais c'est marrant parce que j'ai écrit ça en 2002 et c'est exactement le pitch de Starbuck. Le film,
oui.
Où il y a un type qui s'aperçoit, il a été dans le banque de sperme et qu'il a,
voilà,
fait, et qu'il a, qu'il a 200 enfants.
Voilà. Bon.
Et moi, en fait, c'était exactement le pitch du film. Je joue le rôle d'un père de famille qui attend dans la salle de la banque de sperme tous ses enfants qu'il a eus avec ses dons. Et donc, les gens dans la salle du spectacle sont tous les enfants en question. Donc, tous les gens, chaque soir, je vois tous mes enfants. Et c'est vrai que voilà, c'est un peu le pitch de Starbuck. Et je me suis bien marré avec cette pièce. Et après, ce qui s'est passé, c'est que j'en ai fait une autre. Pourquoi ? Parce que je me suis dit, j'avais eu un certain nombre de spectateurs dans cette pièce et j'ai voulu les retrouver. Donc, c'est pour ça que j'en ai fait un nouveau, sans imaginer qu'on pouvait en avoir d'autres. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, si c'était à refaire, je pense que j'aurais développé Né sous X au lieu de faire 15 spectacles derrière avec les mêmes spectateurs, c'est-à-dire les copains qui venaient à chaque fois pour m'aider.
Bon, et en 2005, enfin, alors vous vous attelez à l'écriture d'un one-man show et tout va aller très vite grâce au booster phénoménal qu'est la télévision puisque vous deviendrez le recordman des passages de l'émission de Laurent Ruquier. On ne demande qu'à en rire. Donc là, soudain, voilà, vous êtes sur la rampe de lancement.
Ouais, je suis passé du café-théâtre au théâtre, je suis passé d'une salle de 100 places à une salle de 1000 places en 3 mois. Ça a été
Et on peut dire la télé, c'est une salle de 5 millions de places.
Ça a été vraiment la période la plus exaltante de ma vie, je crois. C'est vrai que 2010-2012, j'ai vécu un truc, c'est comme si j'étais sur un grand 8, il ne s'arrête jamais. Et je repense, je devais écrire un ou deux sketchs par semaine, j'avais un co-auteur avec moi, et c'est vrai que je n'ai jamais arrêté, jusqu'à d'ailleurs que je fasse un burn-out, tellement j'ai poussé le bouchon. Oui, en 2012, en juin 2012, ouais, j'ai poussé le bouchon très loin, mais j'ai aucun regret, parce que voilà, c'est vrai que ça a été une période extraordinaire.
Olivier de Benoît, vous dites, un humoriste est bon quand il a trouvé son personnage, son clown, en fait quand il a trouvé le con qui est en lui.
Oui.
Bon, le con qui est en vous, vous le définiriez comment ?
Le con qui est en moi, c'est un naïf qui n'a qu'un degré. J'adore les cons. Vraiment, j'adore les cons. Et c'est vrai que les cons à la Francis Weber, c'est-à-dire que j'ai toujours défini la différence entre un con et un connard. C'est-à-dire que c'est une question de degré. Mmh. Le connard a un deuxième degré, il a conscience d'être con. Mmh. Alors que le con, il est premier degré. Mmh. Et les cons sont formidables. Et moi, quand on sort de mon spectacle et on me dit « Putain, qu'est-ce que t'es con ?» C'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Donc, traitez-moi de con, je suis ravi.
La balade se poursuit avec Olivier de Benoît, qu'on retrouve dans quelques instants.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h sur Europe 1.
Le nouveau one-man show d'Olivier de Benoît pour titre Le Petit Dernier. Il fait une gigantesque tournée jusqu'en février 2021. Et par exemple, il sera à Lyon le 13 novembre à la Bourse du Travail. Venez nombreux, cher Olivier. Vous avez surpris tout le monde en 2017 en participant au tournage du film Mon Garçon avec Guillaume Canet et Mélanie Laurent, donc un thriller qui bousculait les codes, pas de lecture de scénario, une seule prise par scène. Je dis, vous avez vraiment surpris tout le monde, parce que en fait, vous avez bluffé à l'unanimité la critique en incarnant l'amant de Mélanie Laurent. Je voudrais savoir comment vous êtes... vous êtes retrouvé dans cette aventure entre ces deux jeunes monstres sacrés du cinéma français, et puis comment vous avez vécu cette expérience quand même entre Guillaume Canet et Mélanie Laurent.
Alors déjà, depuis que j'ai arrêté le cinéma, je voulais arrêter au sommet.
Alors j'allais vous demander si vous aviez reçu plein de propositions à la suite de ce film.
J'ai tout refusé. J'arrête au sommet, je deviens ermite.
Bon, alors non, ce n'était que louanges, les critiques, étaient fabuleuses.
Et tout ça, c'est grâce à...
Il n'y a pas eu de suite ?
Non, pour l'instant, non. Mais... en fait, c'est Christian Carillon, le réalisateur, qui est venu voir mon spectacle et qui, quelques mois plus tard, me dit « Olivier, je vais faire un film qui s'appelle Mon Garçon et je cherche un con. » Je cherche un con, est-ce que ça t'intéresse ? Donc c'est vrai qu'encore une fois, le con m'a sauvé. Et donc je lui ai dit « Ok, il cherchait effectivement cet amant de Mélanie Laurent qui est un type premier degré, mais il fallait être assez subtil pour pas que ce soit trop caricatural. » Et donc j'ai dit oui, et on m'a dit « Mais par contre, Guillaume Canet n'a pas le scénario, donc il n'y aura qu'une prise, il ne sait pas que tu joues dedans, etc. »
D'accord, vous êtes inquiété là.
Et je me suis dit « Premier film ?» avec Mélanie Laurent et Guillaume Canet, qui sont quand même deux monstres sacrés. Et au moment où il ouvre la porte du chalet et qu'il me voit, la prise commence.
Il éclate pas de rire.
Mais j'avais qu'une trouille, c'est dans son œil. Il se dit, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui ? Et puis finalement...
Surprise.
Et finalement, j'ai pas été trop mauvais. Et donc, j'ai adoré faire ce film. Et j'ai adoré les rencontrer, Guillaume Canet.
Mais
Mélanie
vous
Laurent.
N'avez pas retourné depuis.
J'ai tourné 2-3 trucs, mais j'ai pas eu encore des rôles marrants. Alors, c'est vrai que moi, je fais beaucoup de man-man show, je suis beaucoup en tournée. Donc, j'ai pas une disponibilité de dingue. Et je suis pas obsédé non plus par le cinéma.
Bon, et puis de toute façon, on remarque que tous les humoristes qui ont fait du cinéma sont revenus au one-man show à un moment donné de leur carrière. En fait, le public et les rires en live, ça leur manque, c'est
oui.
ça ?
En fait, chaque soir, pendant 1h30, moi je fais un film. Il n'y a pas de montage, voilà. Et les gens le voient en direct. Et donc ça, c'est vrai qu'il n'y a pas un acteur qui a fait de la scène qui peut oublier ça. En termes de sensations, on peut voir plus fort. En plus, à chaque spectacle, on redémarre en bas. C'est-à-dire que c'est l'Everest à chaque fois. C'est-à-dire qu'on ne capitalise jamais quand on fait du one-man show.
Ben voilà. Alors ça, c'est extraordinaire. On ne capitalise jamais quand on fait du one-man show. Bon, le public, il faut le reséduire à chaque prestation. Donc, vous pensez finalement qu'être humoriste, c'est plus aléatoire qu'être acteur ou chanteur ? Parce que, par exemple, un chanteur, il peut enflammer le public avec ses anciens tubes qui ont 30 ou 40 ans. Mais vous nous avez dit tout à l'heure qu'un humoriste, au bout de 2 ans, il faut réécrire un nouveau spectacle. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire hurler de rire le public avec des sketchs qui, eux, ont 40 ans.
Oui, alors c'est difficile, ouais, c'est vrai. Et en plus, ce qui se passe, c'est que quand on arrive sur scène, le public applaudit, il est content de voir, et après, il y a un silence. Et là, il faut tout reconstruire. Il y a pas de. Non, mais j'aime et j'adore cette idée parce que c'est quelque chose. Et on arrive au top. Et c'est pour ça que un humoriste que vous voyez après son spectacle dans un état nirvanesque extraordinaire, comme s'il était drogué, parce que on est en haut de l'Everest, on manque d'oxygène.
Olivier de Benoist, pourquoi des gens follement drôles dans la vie vraie ne parviennent pas à l'être devant un public? C'est parce que faire rire, en fait, c'est pas un don, c'est un métier.
Alors, il y a des gens très drôles au départ, mais c'est vrai que, après, moi, je ne crois qu'au texte. Donc, si vous voulez, vous pouvez être le plus drôle du monde, mais si vous n'avez pas de texte, ça ne marchera pas. Et moi, je suis obsédé par le texte. Je veux que ce soit drôle à l'écrit.
Donc, vous ne laissez pas trop la porte entrouverte à l'improvisation?
Si elle vient, c'est en plus, je la prends avec plaisir. Mais j'aime pas l'idée qu'une partie d'un spectacle soit livrée aux réactions du public. Parce que si les réactions ne sont pas bonnes, eh bien, il n'y a rien de pire qu'un humoriste qui dit à la fin, c'est dommage que hier, le type là-bas, il avait réagi différemment, on s'est bien marré. Vous dites, mais c'est dommage parce que je ne suis pas venu hier. Donc voilà. Donc non, tout est réglé. Je peux le jouer devant personne. J'espère que ce ne soit pas le cas, mais je peux le jouer devant personne.
On retrouve tout de suite Olivier de Benoist.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
Olivier de Benoist, Charles Péguy disait « 40 ans, c'est un âge terrible, nous devenons ce que nous sommes ». Alors ça y est, vous y êtes, vous ne vous mentez plus à vous-même.
J'ai peur des 40 ans, c'est dans quelques années pour moi. Non, je me prépare. Non, mais j'avais fait un spectacle avant qui s'appelait 0-40, où je parlais de la quarantaine. Et en fait, je trouve que moi, je suis mieux à 40 ans qu'à 30, c'est le meilleur âge, pour l'instant.
Pour l'instant.
Non, mais c'est vrai. Je trouve qu'on jouit plus à 40 ans qu'à 30. Voilà. J'apprends à profiter, je veux dire, de chaque instant, chose que je ne faisais pas à 30 ans. Donc, c'est le plus bel âge de la vie, je pense. Dans 0-40, j'allais tronçonner en 3 avec comme des scores de tennis. Et c'est vrai que je disais 40 ans, c'est la... Non, même si je parlais de la déchéance physique, je disais qu'à 40 ans, c'est la déchéance physique. Et, du coup, il y a médicaments pour tout, ce que je disais. Pour éviter la chute des cheveux, il y a un médicament. Le problème, c'est que ça provoque des troubles de l'érection. Et comme vous pouvez le constater, j'ai fait un choix. Voilà. Ce que je retiens de mes 40 ans, c'est que j'ai encore des cheveux. Voilà. Ma femme me préférait chauve. Mais non, mais je 40 ans, c'est un bel âge. Voilà.
Bon, allez, revenons au spectacle baptisé Le Petit Dernier, avec lequel vous êtes en tournée jusqu'en février 2021. Vous dites qu'avec 4 enfants, vous en avez pris pour perpète. Mais là, vous êtes délivré et célibataire pendant 6 mois. Olivier de Benoist.
Célibataire, pourquoi?
Ah oui, non, mais vous êtes sans arrêt sur les routes.
Ah oui, non, mais c'est vrai. C'est pour ça qu'on rajoute des dates. Je rajoute des dates.
Ça va durer peut-être un an.
Je pars 2 jours avant la date en question pour me préparer. Je ne veux plus les voir. Je ne veux plus les voir. Tant que je suis sur scène, je ne suis pas chez moi. Et ça, c'est important. Voilà. Donc, mais c'est vrai que c'est un bon moyen. Parce qu'en fait, voilà, comme ça, j'ai le plaisir à les revoir. Voilà.
Voilà. Bon, alors, il est délicieusement immoral, hein, ce spectacle, baptisé Le Petit Dernier. Par exemple, vous apprenez au public à choisir dans une fratrie l'enfant préféré.
Oui. Hein,
quand on est papa.
Exactement. Alors, j'apprends à choisir l'enfant préféré. Je dis qu'il ne faut pas choisir un enfant préféré parce que, voilà, nous, on a fait l'erreur, on s'était dit en cas d'incendie. Non, c'est horrible. Mais, non. Par contre, le truc important, c'est la place de l'enfant dans la famille. Ça, c'est le truc qui marche le mieux dans le spectacle. C'est-à-dire que j'ai défini qu'en fonction de la place qu'on a dans la famille, on n'est pas le même. Voilà. Bon, j'ai dit que l'aîné, c'est le prototype. Si nous, les parents, on fait d'autres enfants après l'aîné, c'est qu'on paraissait sur un échec.
C'est pour améliorer, voilà.
J'ai dit souvent, l'aîné, c'est la crêpe ratée, celle qu'on laisse au chien. Vous êtes numéro combien, vous ?
Eh ben voilà, je suis la crêpe ratée qu'on laisse au chien.
Alors, je ne vais pas plus loin. Je dis, le deuxième, tout le monde s'en fout. Ce qui est vrai, que tout le monde s'en fout du second, parce qu'on a bossé pour l'aîné. Du coup, le second, il est souvent, voilà, livré à lui-même, il est souvent moche. Les seconds sont souvent moches, vous verrez. Je suis sûr de mon coup.
Et le troisième, il ravive l'intérêt.
Le troisième, les parents retrouvent de l'énergie, ils sont secondés par les deux aînés. Du coup, le troisième est souvent ouvert, intelligent, il est beau, il a toutes les qualités. C'est vrai que je suis troisième, vous en doutez. Et c'est pour ça que voilà, ça m'a été confirmé. Voilà, je suis la preuve vivante que c'est vrai. Et après, voilà. Non, mais c'est vrai que c'est marrant de voir le place de l'enfant dans la famille. Mais je le dis en marrant dans le spectacle, mais je le pense quand même. Je pense qu'en fonction de l'endroit dans lequel on est né, dans une famille, on est différent.
Et puis, vous nous apprenez à gérer un ado attardé.
Voilà, alors j'apprends l'ado attardé. Voilà, parce que j'explique que. Mon ado, je le trouve bizarre. Alors, j'ai analysé de manière cérébrale mon ado. Et d'ailleurs, je dois reconnaître que mon ado n'a pas un quotient intellectuel de poule. On est plus proche de la méduse ou du concombre. Non, mais j'ai l'impression que mon ado, si je devais faire une coupe, j'ai l'impression que dans le cerveau de mon ado, il y a juste une pomme pote. Non, mais tous mes enfants il passe, que ça soit l'ado, que ça soit le nouveau, voilà. Je dis mon enfant de 6 mois, l'autre jour, il a fait une colère, c'est vrai, je le dis, là, il a fait tout ça parce que je l'ai réveillé en pleine nuit. C'est vrai que je vais juste crier, alors tu vois que c'est chiant. Donc, il y a, donc ils ont, voilà, tous, et puis il y a ma fille qui veut devenir humoriste.
Ah, voilà. Maëlle.
Voilà, Maëlle qui m'a dit, voilà, papa, je suis fier, je serai le premier humoriste de la famille.
Maëlle, voilà, et qui a de qui tenir parce qu'elle ressemble beaucoup à sa maman qui est au moins aussi drôle que vous, c'est ça?
Oui, oui, c'est ça qui est frustrant, c'est que voilà, moi j'ai besoin d'écrire, pas elle. Mais donc voilà, donc ma fille, voilà, et d'ailleurs ma fille qui tous les soirs, de temps en temps, m'écrit des vannes et pour que je les teste sur scène. Donc maintenant j'ai un papier, je dis au public, voilà, ma fille a des vannes, je vais vous les tester, vous allez me dire si c'est drôle ou pas. Et bon. Donc, je souhaite qu'elle continue ses études, continue son niveau.
Bon, d'accord, très bien. Olivier Denoît, qu'est-ce qu'on a oublié de se dire? Parce que ça défile très, très vite le temps avec vous.
Juste que je suis absolument ravi, parce que c'est vrai qu'on ne parle pas du tout de cette période dans laquelle on est. Et je suis absolument ravi que les salles voilà, rouvrent. Et je suis très impatient de repartir.
Et même si le public porte le masque, voilà. Entend les hurlements de rire.
Oui, c'est ça, j'ai déjà été expérimenté, les gens se marrent, et nous on entend super bien les rires, et les gens se marrent super bien, et à un moment donné ils oublient qu'ils ont un masque, et donc voilà, je suis vraiment impatient, et je pense que voilà, il faut que, ça m'a manqué, voilà. Je me suis rendu compte qu'on n'était pas grand-chose, nous les humoristes, ou en tout cas les comédiens, on n'est pas grand-chose, sans le public, je m'en suis rendu compte que, voilà, à jouer tout seul, à un moment donné c'est chiant.
Bon, ben justement, c'est complet les premières dates. Je ne vais pas rappeler que mardi prochain, vous êtes au casino d'Aix-les-Bains, parce que c'est complet, mais comme ça, je pourrais rappeler le théâtre de Poissy le 7 octobre. Je pourrais parler de Biarritz à la gare du Midi le 27 novembre. N'oublions pas nos amis belges, parce que le 23 octobre, vous serez à Liège. Et puis la tournée, elle va se prolonger.
Jusqu'à ce que vous veniez me voir.
Bah non, alors elle va s'arrêter tout de suite parce que j'accours.
Mardi prochain, merde, alors voilà. On annule tout. Venez le plus tard possible.
Bon, c'était vraiment un plaisir. Je vous embrasse, Olivier de Benoît.
Également.
Et puis, je vous dis à très vite.
Avec plaisir.
À bientôt.